signe des temps, Marc Wetzmann.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Les goulags furent un phénomène majeur de l'histoire du XXe siècle, un pays dans le pays, une civilisation méconnue. Ainsi annoncent en préambule Nicolas Vert, François Aimé et Patrick Rothman, les auteurs du film en trois parties Goulag, diffusé sur Arte le 11 février dernier et toujours disponible sur le site de la chaîne. Et voici que ce phénomène méconnu fait surface au grand jour aujourd'hui. Le film Goulag s'annonce comme le plus grand succès documentaire d'Arte. Il sera suivi mardi 25 prochain d'un autre film, réalisé cette fois par Cédric Tourbe, Katyn, les bourreaux de Staline, consacré au massacre de plus de plusieurs dizaines de milliers d'officiers polonais par le NKVD en 1940. La formidable richesse des archives exploitées par ces films, les témoignages des familles des victimes réalisés par l'association Mémorial, les images des camps de travail, les images souriantes des monstres que furent Léventine Beria, Léjov ou le tueur Vladimir Blokhin, que le public découvre sans doute pour la première fois en plus de ceux de Staline ou de Lénine, aident sans doute au succès de ces films. Mais plus profondément, ces documentaires ne résonnent-ils pas aussi de façon familière et inquiétante aujourd'hui ? Dans le cauchemar idéologique que fut le XXe siècle, la civilisation concentrationnaire voisinait avec la propagande d'un avenir radieux et les massacres de masse avec ce que l'on n'appelait pas encore les fake news. N'est-ce pas à cette époque que le langage a été perverti une nouvelle fois ? Et n'est-ce pas de cela aussi que nous sommes les héritiers aujourd'hui ? Pour en parler avec nous aujourd'hui, Nicolas Vert, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'un des co-auteurs de ce documentaire Goulag. Vous êtes historien, spécialiste de l'Union soviétique, directeur de recherche à l'Institut d'histoire du temps présent, affilié au CNRS. Vous êtes aussi auteur de nombreux ouvrages, dont La route de la colline Ma, La terreur et le désarroi. Vous avez passé de nombreuses années à Moscou. Vous avez remué des centaines de milliers de pages des archives du Goulag. Vous êtes l'un des auteurs de la monumentale Histoire du Goulag en 7 volumes, initiée par les archives d'État de la Fédération de Russie. Cédric Tourbe, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes réalisateur du documentaire, de plusieurs documentaires, dont Katyn, donc, qui va passer le 25, mais aussi avant ça, du pacte Hitler-Staline en 2019, de Lénine, une autre histoire de la révolution russe en 17, et avant ça, de documentaires sur la France, hein, Juppé et les grandes grèves de 95, 65, la première campagne pour l'Élysée, Focard, l'homme qui dirige à l'Afrique, etc. Luba Jorgensen, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes auteur de plusieurs ouvrages aussi, notamment Création et tyrannie, URSS 1917-1991, Au lieu du péril. Vous êtes professeur à la Sorbonne, spécialiste de la littérature russe et vous avez préfacé notamment les récits de la Kolyma de Varlam Shalamov chez Verdier. Et Galia Ackerman, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes déjà venu dans cette émission pour parler de Tchernobyl, la série, et Tchernobyl, l'accident. Vous êtes docteur en histoire à l'université de Caen. Vous avez introduit en France l'œuvre de Svetlana Alexievitch, à l'époque inconnue et aujourd'hui Nobel de littérature. Vous êtes spécialiste de l'idéologie de la Russie post-soviétique et auteur de nombreux ouvrages, dont Traverser Tchernobyl et plus récemment Le régiment immortel, la guerre sacrée de Poutine, que vous dédiez à la journaliste Anna Politkovskaya, assassinée à Moscou en 2006 et dont vous étiez l'ami. Donc, le goulag, phénomène historique majeur du XXe siècle. Alors, c'est ma première question. Pourquoi phénomène historique majeur du XXe siècle, Nicolas Vert ?
Ne serait-ce que par l'ampleur de, à la fois géographique de ces camps, ces centaines, ces milliers de camps qui ont gagné tout l'espace soviétique, par le nombre incroyable de soviétiques et de non-soviétiques, oui, qui sont passés par le goulag, c'est-à-dire en gros 20 millions de soviétiques qui ont connu le camp, plus 6 millions qui ont été déportés dans des villages de peuplement non loin des camps, et environ 1 million d'Européens, essentiellement de l'Est, qui ont fait cette expérience des camps soviétiques en une génération, en gros de la fin des années 20, au milieu des années 50.
Alors vous avez dans l'un et l'autre, dans l'un et l'autre des films, à la fois le Goulag et à la fois Katyn, il y a une exploitation d'un formidable travail d'archives, des images qu'on ne connaissait pas. On peut dire un mot sur comment vous avez fait pour avoir accès à toutes ces images et les récupérer, l'un et l'autre.
Bah écoutez, je vais commencer brièvement avant Cédric qui travaillait aussi au fond de travail. En gros, sur les mêmes sources, c'est-à-dire qu'on a d'une part l'énorme massif de matériaux qu'a collecté l'ONG Mémorial, qui a collecté d'abord des centaines et des centaines de témoignages d'anciens détenus avant qu'ils disparaissent, depuis les années, fin des années 80, années 90, 2000. Il y a aussi dans les archives collectées par Mémorial des dessins de détenus, des lettres, des photographies, et puis il y a le fonds cinématographique des archives du cinéma à Krasnogorsk que tous ceux qui s'intéressent à l'histoire soviétique par l'image fréquentent.
Cédric Tourbe.
Oui, je dirais que il y a effectivement on travaille sur les mêmes sources. Hein. Nous on a travaillé en étroite collaboration avec l'association Mémorial, qui nous a fourni énormément de documentation, qui nous a fourni notamment l'intégralité des dossiers personnels des tueurs du NKVD qui ont participé non seulement à Katyn mais à l'intégralité de l'opération polonaise, qui dépasse largement Katyn.
Oui.
Ensuite, on a eu un travail qui a été fait par ma co-auteure Olivia Gomolinski, qui a été en Russie, à Gosfinfon, qui a été à Krasnogorsk et qui a ramené énormément d'images, d'images films. Hein. Et puis après, c'est un petit peu, on fait comme on peut. Donc il y a des images en agence, il y a des photographies, et dans mon cas, par moment, on était vraiment coincé parce qu'on est vraiment sur une histoire secrète. On a dessiné, on a utilisé un dessinateur qui nous a fait certaines séquences. Voilà.
Alors sur Mémorial, Galia Ackermann, vous parlez de l'association Mémorial et du travail de Mémorial dans votre livre La guerre sacrée de Poutine. Vous dites que c'est un travail qui a été fait essentiellement dans les années 85-95.
Écoutez, c'est un travail qui continue toujours, mais dans les conditions de plus en plus difficiles. Parce que cette association, cette société mémoriale, qui a fait un travail absolument gigantesque, est de plus en plus empêchée de travailler. Et notamment, on sait qu'aujourd'hui, par exemple, il y a un procès absolument infâme d'un historien du mémorial, Yuri Dmitriev, qui a essayé de révéler des faits absolument essentiels sur l'un des sites de meurtre de masse du NKVD en Carélie. Aujourd'hui, il risque jusqu'à 20 ans de prison.
Alors, on va parler d'aujourd'hui tout à l'heure, mais je voudrais que vous me disiez deux mots sur les...
Mais ce que je veux dire, c'est que, en effet, le mémorial a fait un travail gigantesque sans lequel on n'aurait pas eu accès à toute cette matière à laquelle on a accès. Et notamment Nikita Petrov, l'un des grands historiens du mémorial, a fait un travail énorme sur les bourreaux de Staline. Le thème qui est très avancé donc dans le film sur Katyn, sur ce Vassili Blokhin, qui a personnellement exécuté pendant sa longue carrière des dizaines de milliers de personnes. Et donc, c'est la première fois qu'on peut, au cinéma, voir le visage des tueurs.
Absolument, c'est remarquable d'ailleurs. Enfin, c'est une des choses qu'on voit plusieurs choses pour la première fois dans chacun des deux films d'ailleurs, et pas toujours les mêmes choses. Une des choses qui me semble frappante, c'est la différence des rires. C'est-à-dire que dans les toutes premières années de la Révolution, en 17-18, quand on voit les premières arrestations et les premières déportations au moment de la Terreur rouge, les gens qui sont envoyés dans les îles Solovki, on voit le peuple qui rit autour d'eux. On le voit dans certaines de vos archives, Nicolas Werth. Et plus tard, on voit aussi les officiers, les membres du Politburo qui rient entre eux dans les années 30. Mais c'est pas du tout le même rire. On a l'impression, dans un premier temps, qu'il y a un rire presque spontané, réel, une espèce de joie dont parle un peu Kundera quand il parle des anges dans ses livres. Et ensuite, c'est un rire qui est beaucoup plus mis en scène, où on sent la peur affleurer à chaque fois. C'était très frappant, ça, sur les images, non ?
Nicolas oui, c'est Werth. Vrai, absolument. Vous avez tout à fait raison. En effet, il y a ces images, notamment pendant la Terreur rouge de 1918. Bon, les masses sont évidemment heureuses de casser du contre-révolutionnaire, oui. Ça, il n'y a aucun doute. Et puis ensuite, au fur et à mesure que la Terreur s'étend et touche potentiellement chaque soviétique, évidemment, on ne rit plus. En revanche, il y a ces photos et ces tournages de dirigeants qui ont un air goguenard entre eux, mais où en effet affleure toujours cette crainte et cette méfiance.
En Union soviétique, la pellicule est le monopole de l'État. Donc la question, c'est pourquoi on filme, hein? Les îles Solovki, on les filme abondamment parce qu'elles servent d'exemple. On va rééduquer. L'arrestation des prêtres en 1918, on le filme parce qu'on a envie de le montrer. Le GPU, on le filme au début des années 20. Et plus on avance, et moins on filme. Donc, je pense que sur l'histoire du Goulag, c'est très marquant. Hein. Ouais. Passé 1945, c'est compliqué de trouver des images parce que là, on ne montre plus. Donc la question, c'est à un moment, le régime décide de montrer. Et plus on avance et plus on rentre à la fois dans le régime du secret et, à mon avis, dans une propagande qui est de mieux en mieux maîtrisée.
Parmi les moments les plus frappants, on est vraiment chez Shakespeare, quoi. Il y a l'enterrement de Dzerzhinsky qui est magistral, où on voit Staline portant le cercueil et tous se regardent et regardent la caméra en même temps. Il y a des choses comme ça. Il y a le visage de Beria qu'on voit. Moi, je l'avais jamais vu, le visage de Beria en train de tirer avec ce regard de fauve souriant, quoi. Il y a le regard caméra de Liégeoff à un moment donné, je crois que c'est dans votre film, oui. C'est dans Katine, oui. Où il regarde la caméra au moment de sa gloire, c'est absolument frappant. Là, on voit toute la sauvagerie apparaître.
Et si on regarde bien les images, c'est une grande fête à la gloire du NKVD.
Du NKVD, hein. Oui.
On a bien regardé les images avec le monteur, on n'a pas pu l'exploiter jusqu'au bout. Mais en réalité, on voit bien que les gens à l'intérieur, l'assistance, ils sont terrorisés. Tous. Ils se surveillent. Tout le monde se surveille. C'est extrêmement impressionnant. Et c'est vrai que le regard de Liégeoff est très impressionnant, mais moi je me demande ce qu'il y a dans ce regard. Est-ce que lui-même n'est pas aussi un peu terrorisé?
Oui, c'est très possible. Hein. Très possible. D'ailleurs, il finira mal. Luba Jorgensen, dans la préface que vous avez fait au récit de la Colima, vous dites que les grands textes sur le goulag échappent à l'opposition entre fiction et document.
Oui, ce sont des catégories qu'il est difficile d'appliquer à ces textes-là, parce que, si on prend quelqu'un comme Chalamov, Chalamov a une conception tout à fait particulière du document, c'est-à-dire il essaie de restituer justement cet état de déshumanisation, cet état ce qu'il appelle le transhumain, cet état entre la vie et la mort que peut connaître le détenu absolument exténué, le crevard. Et ce qui compte pour lui, c'est justement de témoigner depuis cet état. Mais comme celui qui témoigne est un survivant et donc il est revenu à la vie, entre-temps, évidemment, il n'est plus dans cet état. Donc voilà, donc le propos de Chalamin, c'est justement que nous n'accéderons jamais à la réalité du goulag. C'est une sorte de traduction vers la langue du lecteur. Et je pense qu'il faut aussi parler du statut des images, justement, que nous voyons dans les films. C'est-à-dire, pour éviter le... ce sont des images produites par l'institution. Je crois qu'il faut que le spectateur en soit conscient. Hein. C'est les images. Les images elles-mêmes sont faites par des bourreaux, entre guillemets. C'est compliqué de parler de, enfin, les catégories, la catégorisation de Raoul Hilberg, victime, bourreau, témoin, elle ne fonctionne pas toujours avec le goulag, parce que les bourreaux, comme on le voit très bien d'ailleurs dans les deux films, les bourreaux deviennent à leur tour victimes, parce qu'ils ne sont pas tués pour leurs crimes, ils sont tués pour ce qu'ils n'ont pas fait, hein, pour des crimes qu'ils n'ont pas fait. Donc juridiquement, oui, je veux dire, c'est leur exécution est illégale. Voilà. Et certaines victimes, enfin, victimes du système, ou certains détenus peuvent devenir à leur tour des bourreaux, comme Frankel, qui est dans un premier temps un détenu, et puis qui va... parce que le système le permet à un certain moment.
Ouais. Il le permet. Mais alors, la question que pose Chalamov, c'était une question similaire à celle que pose Primo Levi. Oui. Hein, c'est-à-dire, comment parler, comment écrire quand on n'est pas, qu'on n'est plus dans la position de, puisque le seul vrai témoin, c'est celui qui ne revient pas.
Tout à fait. Mais la question que pose, la différence, là, en l'occurrence d'expérience entre les deux, c'est que, effectivement, pour Primo Levi, la Shoah, c'est le musulman, c'est celui qui est l'équivalent du crevard du camp du goulag, parce que Primo Levi ne voyait pas toutes ces foules qui allaient directement à la chambre à gaz sans connaître cet état. Je pense que en fait ce que dit Levi s'applique beaucoup plus au camp soviétique, hein, c'est-à-dire que le crevard est beaucoup plus symbolique du camp soviétique que le musulman ne l'est du camp nazi.
Du camp nazi, oui, tout à fait.
Voilà, et en plus, comme je veux dire, les camps soviétiques n'étaient pas des camps d'extermination, en ce sens qu'ils n'étaient pas destinés à assassiner les gens dès leur arrivée, même s'il y avait une forte mortalité, eh bien, dans les camps soviétiques, il arrivait à certaines personnes de connaître cet état à plusieurs reprises, c'est-à-dire de toucher le fond, comme disaient les détenus, ils touchaient le fond, et puis soit ils mouraient, soit... si un petit miracle intervenait, ben, il revenait à la vie et puis il pouvait retoucher le fond à un autre moment. Donc, ce qui fait que c'est le cas de Chalamov, il a traversé à plusieurs reprises cet état entre la vie et la mort. Donc, il estimait que c'était justement un état humain nouveau, synonyme de cette modernité que les camps représentent d'une certaine façon. Et alors, c'est peut-être pas le moment d'en parler, mais la question de l'occultation des camps soviétiques, enfin de leur non-reconnaissance, notamment en Occident, tient aussi au fait que pour les Occidentaux, les camps soviétiques étaient un phénomène d'arriération hérité de l'Empire tsariste. Alors que pas
oui,
du
c'est,
tout.
Oui, c'est une des choses que vous montrez très bien, Nicolas Wörth, dans les trois films, c'est qu'on les camps d'abord naissent dès le début de la Révolution, dès 18 en fait, c'est d'abord un processus révolutionnaire, et puis très vite, ce que vous montrez, c'est que ça va devenir en fait une entreprise économique.
Absolument. Et ça, c'est encore une fois Dzerzhinsky et son compère Piatakov qui, dès 25... 1925, ont l'idée, au fond, de la nécessité de coloniser des territoires vierges, des territoires riches en matières premières, avec la main d'œuvre. Et donc, ça va se lancer véritablement à partir de 1929, parce que les Solovki, c'est vraiment une sorte de laboratoire expérimental sur une assez petite échelle.
Mais c'est les Solovki qui sont le premier, en fait, le premier camp.
Oui, enfin, c'est pas exactement le premier camp, enfin, parce qu'il y a eu les camps de la guerre civile, mais disons que c'est après la guerre civile, en état de paix, revenu, c'est le laboratoire expérimental de ce que deviendra le goulag. Mais pour cela, il fallait évidemment changer d'échelle, et on change d'échelle à partir de la collectivisation forcée des campagnes, c'est-à-dire à partir du moment où il y a une véritable guerre déclarée à toute une nation de paysans, plus de 80% de la population. Et donc, à partir de ce moment-là, la collectivisation plus l'industrialisation à marche forcée, ça va évidemment entraîner l'idée que les détenus vont fournir une main-d'œuvre gratuite, abondante, pour construire des infrastructures, pour coloniser des terres vierges. Et donc, on a ce double volet, à la fois construction d'infrastructures, canaux, routes, aérodromes, voies de chemin de fer, et colonisation de régions où personne ne serait allé de son propre gré, comme voilà. La Colima.
Comme la Colima. Et alors, vos films sont complémentaires sur la collectivisation de la production agricole, en particulier sur la famine en Ukraine notamment. Série Toub, vous montrez le cannibalisme.
Oui, ça va loin.
Ça va très loin.
Ça va très très loin en Ukraine.
Vous citez des...
C'est un crime contre l'humanité. Hein. Il n'y a pas de doute sur ce que fait le pouvoir soviétique à ce moment-là. Et sait que c'est volontaire. C'est pas un accident.
Toutes les récoltes sont prises par l'État.
Oui, c'est pas un accident.
Et les gens sont condamnés à mourir.
Alors,
de
pourquoi
faim.
Ils le font? Pourquoi Staline y va aussi fort sur l'Ukraine? Moi, j'ai pas la réponse. Et je pense que là, je sais pas si je parle sous le contrôle de Nicolas, mais il y a pas mal d'hypothèses. Et je pense que la première chose, les bolcheviks craignent la paysannerie. Mmh. Ils en ont peur. Je veux dire, c'est 100 millions de personnes et ils en ont vraiment, vraiment peur. Donc, on va cogner fort. Et il y a un deuxième aspect qu'il ne faut pas perdre de vue, à mon avis, c'est que l'Ukraine, c'est une zone frontalière et qu'on met au pas les zones frontalières. Les services secrets polonais, au moment qui infiltrent l'Ukraine, hein, au moment de la collectivisation et de la grande famine, les services secrets polonais perdent pied. Mmh. C'est-à-dire qu'ils ne savent plus ce qui se passe. Mmh. Mmh. Donc ça fonctionne, ça réussit. Et c'est vrai que ça va loin et c'est intéressant de voir jusqu'où ça peut aller pour, à mon sens, soviétiser. Parce que c'est ça qu'on fait, on soviétise.
Ce que vous dites aussi, Nicolas Vert, c'est que les capitaux nécessaires à l'industrialisation forcée sont obtenus par prélèvement massif de la production agricole. C'est-à-dire qu'il y a une imbrication de la terreur et de l'économie qui va finir par, avec le développement des grands travaux par la suite, par faire de la collectivisation d'une part et puis du goulag d'autre part, le vrai fondement économique du système soviétique qui ne fonctionne pas autrement au bout d'un moment.
Oui, enfin, il y a l'imbrication de ces deux niveaux, le niveau économique et évidemment le niveau répressif.
Alors, vous voyez que les camps deviennent un rouage vital de l'économie soviétique.
Tout à fait, ils deviennent un rouage vital et en même temps avec une productivité extraordinairement faible. Et ce qu'ont montré des historiens économistes du Goulag, au premier lieu Oleg Levniuk, c'est de montrer qu'au fond... Et Chalamov l'a montré d'une autre manière littéraire en disant qu'au fond, le goulag, c'est le retour de l'âge de la brouette, donc une profonde régression économique, culturelle, sociale, mentale, etc. C'est que, à la fois, le goulag a aussi eu un effet profondément régressif sur cette économie. Parce qu'au fond, même sur le long terme, imaginez les mauvaises habitudes qui se prennent de travail au goulag. Les gens sortaient du goulag, enfin, un grand nombre d'entre eux, et donc toutes ces habitudes prises au goulag ne pouvaient évidemment qu'avoir des résultats catastrophiques. Une fois que l'ex-détenu revenait dans le...
Ils font des travaux phénoménaux, mais sans outillage, en fait. Quasiment
absolument,
à
voilà.
Ou très peu.
Voilà,
certains travaux qui servent à rien, par moment.
Qui servent à rien.
Voilà. Et donc, il y a une contradiction, parfois, entre l'objectif économique et, évidemment, l'objectif répressif. Les deux vont toujours ensemble.
Il y a aussi ces images qu'on voit dans les documentaires. Il y a les films d'Eisenstein qui sont sur les récoltes en Ukraine au moment de la famine. Il y a Staline qui dit « on vit mieux, la vie est devenue plus gaie ». Il y a ces images de Dolce Vita, des apparatchiks, la fabrication d'une fausse classe moyenne en quelque sorte. On a l'impression de se retrouver chez Fellini ou vraiment la Dolce Vita.
Encore une fois, c'est ce qu'on montre.
Oui, c'est ce qu'on montre, bien sûr. Mais c'est quand même, c'est-à-dire que c'est ça, il y a la mise en scène d'une réalité de plus en plus déconnectée de la réalité.
Alors, elle n'est pas déconnectée à mon sens. Là où ils deviennent très très forts, c'est qu'ils montrent systématiquement l'inverse de la réalité. Quand on collectivise, on va montrer des tracteurs. Bon, des tracteurs, il n'y en a pas. Ça prend du temps, c'est compliqué. Ils ne savent pas les produire, il faut qu'ils les achètent aux États-Unis. C'est compliqué. Donc, la collectivisation, c'est une catastrophe. Mais on ne va pas montrer ça, évidemment. Bon, lorsqu'on montre qu'on adore toutes les femmes soviétiques, il y a un film magnifique qui est fait comme ça, toutes les femmes soviétiques, y compris les nationalités. Donc on fait un ode vraiment incroyable à toutes les nationalités d'Union soviétique. Ça correspond au moment de la Grande Terreur où on est en train d'éliminer les nationalités. Donc on montre, c'est ça qui est très déstabilisant, parce que l'image est tellement puissante et tellement forte, ces images de tracteurs, ces images de gens heureux, etc., etc., ça écrase tout, si vous voulez. C'est très déstabilisant.
France Culture, Signe des Temps, Marc Wetzmann.
Alors, les goulags et Katyn, la pire période après la grande terreur de 37, vous le dites, Nicolas Wert, ça va être en fait ça va être la pré-seconde guerre mondiale où les conditions se dégradent considérablement. Là, on a les témoignages de Julius Margolin qui dit la philanthropie au camp, c'est comme de l'eau de Cologne versée dans un abattoir. Chalamov écrit la force physique devient la force morale. Tu ne te fieras à personne, tu ne craindras personne, tu ne demandera rien à personne. C'est-à-dire qu'il y a les goulags deviennent progressivement un espace de sauvagerie pure hein, où la mafia, le hooliganisme et la corruption vont régner dans les années 49, 50, 53, je crois, si mes souvenirs sont bons dans les dates, c'est ça, Nicolas Wert ?
Oui, enfin, bon, en fait, la mainmise des truands sur la vie quotidienne du camp, ça commence très tôt, dès les Solovki. D'autre part, la période la pire pour les détenus et
les
détenus femmes et hommes, bien sûr, c'est la guerre. C'est 42, c'est 43, avec des taux de mortalité de plus de 20% par an. Donc, pourquoi ? Parce que il y a une désorganisation complète du système, les gens crèvent de faim, de maladie. Au contraire, après la guerre, les taux de mortalité diminuent considérablement dans les camps parce que le régime se rend compte qu'après la saignée énorme de la guerre, il faut un peu économiser la main-d'œuvre. Alors, ce qu'il y a, c'est que ces années d'après-guerre sont intéressantes, comme on le montre dans le film, pour d'autres raisons. C'est à la fois l'apogée numérique du goulag, qui atteint jusqu'à plus de 2 700 000 détenus, plus 2 800 000 déportés. Donc ça fait quand même une masse de 5,5 millions de personnes à un moment X, au début des années 50. Et en même temps, les autorités policières et les autorités tout court se rendent compte que c'est un système qui est profondément vicié, y compris d'un point de vue économique. Et donc il n'y a pas du tout de rentabilité, à tel point que en 1951, un des adjoints de Beria, Mamoulov, propose tout simplement de libérer un très grand nombre de détenus et de les assigner à résidence sur place comme des déportés, tout simplement parce qu'au fond, ils ont fait le calcul suivant, c'est que comme on payait ces malheureux bougres, même ces ouvriers, tellement peu, au fond, ça coûtait moins cher et ça produisait plus que des détenus qui travaillaient très mal et qui étaient encadrés quand même par près de 400 000 personnes. Voilà, donc on voit enfin, à quelle absurdité on aboutit.
Alors, je voudrais qu'on parle de l'héritage de cette période aujourd'hui et de la transmission de la mémoire. Vous le faites dans vos documentaires, mais bon, en France notoirement, ça a été très longtemps difficile de faire passer l'existence du goulag. On parle du procès Kravchenko dans le documentaire et la manière dont Aragon, Elsa Triolet et une bonne partie des intellectuels français ont lutté contre les informations par soutien au Parti communiste, qui était la première force politique française à l'époque. Donc le mensonge a été... En France, on n'a pas vécu la guerre froide comme une guerre froide. On l'a vécu, en fait, idéologiquement dans un camp, économiquement dans l'autre. Donc ça créait des distorsions considérables. Et aujourd'hui, dans la Russie contemporaine, Galia Ackerman et Luba Jorgensen, par quel dédale la mémoire des camps est-elle passée et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui?
Je peux commencer à répondre?
Galia, oui.
Oui. Écoutez, c'est une chose assez extraordinaire parce que pendant la perestroïka et pendant la période yeltsinienne, tant qu'il était en vie, moins vers la fin, mais surtout pendant son premier mandat, il y a eu la reconnaissance pratiquement de la totalité des crimes de l'époque soviétique, non seulement de l'époque stalinienne, mais aussi de l'époque léninienne, qui n'a pas été touchée pendant les dégels de Khrushchev. Mmh. Et donc, on pensait qu'il serait impossible de revenir en arrière. Mais Poutine, qui a décidé de réhabiliter complètement la période soviétique, d'en faire une sorte de pivot avec la grande victoire dans la Seconde Guerre mondiale, du pivot de la nouvelle identité russe, il veut réhabiliter complètement la période soviétique et en particulier la période stalinienne parce que c'est Staline qui a obtenu cette victoire. En réalité, bien sûr, c'est le peuple soviétique et même en partie, je dirais, malgré Staline, qui a gagné la Seconde Guerre mondiale. Mais donc la doxa officielle maintenant fait de la figure de Staline pratiquement un héros, on lui pardonne tout parce que c'est lui le vainqueur, parce que c'est lui qui a élargi les frontières de l'Union soviétique, parce que c'est lui qui a mis sous son contrôle la moitié de l'Europe, l'Europe orientale, de l'Est, etc. Et donc, pour que cela passe, il faut réécrire l'histoire. Il faut occulter, ou pire encore, complètement pervertir ce qui s'est passé avec le goulag, les persécutions, les purges, l'extermination, etc. Et l'exemple peut-être le plus frappant, c'est justement l'exemple de Katyn. Parce que c'est un crime de guerre. Les soviétiques ont arrêté des dizaines de milliers d'officiers polonais qui n'ont rien fait, qui n'ont même pas eu le temps de se battre, qui ne se sont pas battus contre les soviétiques. Ils les ont froidement exécutés, 22 000 personnes, donc en avril 1940. Et pendant toutes les années suivantes, ils ont nié ce crime. Tout simplement nié, en disant non, c'est pas nous, c'est les Allemands. Bon, tout ça, c'est bien exposé dans le film. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant? Soit on nie complètement le Katyn, on dit non, c'était les Allemands, parce que les tueurs russes utilisaient les pistolets allemands, les Walther. Ou pire encore, on dit que c'est la Pologne qui est coupable, parce que c'est la Pologne qui a déclenché maintenant l'interprétation de l'histoire par le régime de Poutine. C'est la Pologne qui a provoqué la Seconde Guerre mondiale. C'est la Pologne qui était le rapace de l'Europe.
Parce que c'est comme ça que les
officiers polonais, s'ils étaient exécutés, et je dis si, parce que systématiquement ça se nie, c'était parce que c'était une sorte de rétribution juste, parce que en 1920, quand il y avait la guerre de l'armée rouge qui essayait de réoccuper la Pologne, qui avait fait, comme tout le monde sait, qui a fait partie de l'Empire russe. Donc, l'armée rouge n'a pas réussi. Il y a eu un certain nombre de prisonniers de guerre russes chez les Polonais, dont une partie, quelques milliers, sont morts de la typhoïde. Mais aujourd'hui, on dit que c'était les Polonais qui ont maltraité et qui ont délibérément assassiné les soldats de l'armée rouge.
Donc il y a une relecture nationaliste, quoi.
De vengeance, dans le meilleur des cas. Mais oui. Le discours est très flottant sur le fait, est-ce qu'il y avait Katyn ou il n'y avait pas Katyn.
Cédric Tour, vous dites que vous avez eu des problèmes, vous me disiez avant le début de l'émission, vous aviez, avec le film sur Katyn, des problèmes jusqu'en Pologne.
Oui, enfin des problèmes, c'est beaucoup dire, mais c'est un sujet pour les Polonais qui est à vif, hein, qui, je disais tout à l'heure, radioactif, mais c'est vraiment l'impression que ça donne, c'est pas que chez les Russes, parce que ça constitue leur mémoire nationale, hein, et parce que c'est un enjeu nationaliste, hein, voilà. Et c'est intéressant de voir cette réécriture russe actuelle pour en faire un événement russe national, hein, alors qu'en réalité, ça n'a rien à voir avec ça. C'est une soviétisation tout à fait routinière de la Pologne. C'est juste, c'est comme ça qu'on fait à l'époque, hein. Et c'est ça, à mon sens, que Poutine veut maquiller. C'est ça qui ne faut surtout pas regarder en face, hein. Et se réécrire et se réinventer une histoire. Et il faut savoir que sur le site de Katyn, il y a une stèle qui a été installée récemment à la mémoire des soviétiques qui ont été assassinés par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale sur le site de Katyn.
Oui.
Il s'avère que les Allemands ont tué des tas de gens dans la région de Katyn,
hein,
c'est vrai. Ouais. Mais symboliquement, c'est quand même important. C'est-à-dire même cet endroit-là, il faut qu'on se le récupère, quoi.
Mais je me demande, Louva Jorgensen, cette difficulté, enfin c'est plus qu'une difficulté, c'est qu'après un moment où la mémoire a pu sembler vouloir apparaître, pas seulement en Russie d'ailleurs, hein, mais pratiquement dans toute l'Europe, à la fin de la guerre froide, on a eu l'impression que finalement la mémoire se libérait sur un tas de sujets, et puis finalement, aujourd'hui, on a le sentiment d'une nouvelle réalité alternative, une mémoire alternative en quelque sorte, c'est pas seulement les fake news contemporaines, on a plutôt l'impression que les fake news contemporaines sont comme le résultat d'une immense réécriture de l'histoire, comme si l'Europe était fondamentalement incapable d'assumer la mémoire du XXe siècle.
En fait, il se trouve que je suis à Varsovie, pour une manifestation, pour une réflexion, un atelier de travail autour des questions de mémoire, avec des Polonais aussi qui déplorent eux également leur repli actuel sur la mémoire nationale. Alors effectivement, c'est un phénomène qui dépasse largement la Russie, qu'on observe un peu partout dans le monde, mais je dois dire qu'on l'observe un petit peu plus dans les pays qui étaient intégrés dans le bloc soviétique
pendant
la guerre froide. Hein, c'est-à-dire que cette longue histoire du joug soviétique prédispose aussi à, on n'a pas le temps d'entrer dans les détails, mais je veux dire, ce repli sur la question nationale vient aussi du fait que l'Europe, qui a demandé à ces nouveaux pays de faire un travail de mémoire, c'est relativement peu intéressé en fait au travail de mémoire concernant le passé communiste. Et je pense que c'est une frustration qui évidemment ce n'est pas le seul facteur, mais cette frustration là elle s'exprime aussi de cette façon. Alors en ce qui concerne les pays qui sont intégrés à l'Europe sont en quelque sorte doivent à l'Europe un certain discours uniformisé sur la mémoire, même si voilà en Pologne, en Hongrie, on observe quand même des dérives assez fortes.
D'où vient ce désintérêt pour le passé communiste, pour le passé du bloc de l'Est en fait, à votre avis? Enfin, je pose la question à tout le monde là. Hein, ceux qui veulent répondre.
Il y a toutes sortes de facteurs, mais je pense que l'Europe. Autant la Shoah est perçue comme faisant partie de l'histoire européenne, oui. On a beaucoup de mal à faire comprendre que le goulag, les répressions staliniennes qui ont frappé, Nicolas Vert vient de le dire, qui ont frappé des Européens, une masse d'Européens, et en plus la Russie, ne l'oublions pas, c'est aussi un pays européen, il y a plein de camps qui sont situés en Europe, dans la partie européenne de la Russie, c'est une histoire européenne aussi. Donc je pense que tant que ce ne sera pas véritablement compris, il y aura toujours ce déséquilibre entre les mémoires. Et c'est pour ça aussi que je me félicite d'ailleurs de la sortie, enfin je félicite les auteurs pour la sortie de ces deux films, parce que rien ne peut convaincre de cette centralité des répressions staliniennes dans l'histoire européenne autant que le cinéma. Hein. Le cinéma est quand même et c'est une des vocations du cinéma documentaire que de ramener cette histoire de la rendre visible.
D'autant qu'elle a eu une influence idéologique très forte, en particulier en France. Cédric Tourme.
Oui, non, je voulais dire plusieurs petites choses assez rapidement. Lorsque Vajda fait son film sur Katyn, le papa de Vajda a été exécuté à Katyn. Il le fait en 2007 ou 2008. Il s'est fait, pardonnez-moi l'expression, conchier par la critique française, Le Monde, Télérama, etc. Pourquoi ? C'est un problème politique. On n'a pas le droit de dire du mal de l'armée rouge. C'est très compliqué. Ouais, on a un gros problème avec ça. D'autant que c'est l'armée rouge qui libère Auschwitz. Et cette mémoire doit se figer et effectivement, autant on peut travailler sur la mémoire de la Shoah, et il ne faut jamais arrêter de travailler sur la Shoah, c'est absolument essentiel, etc. Mais ça nous empêche de voir d'autres choses et de dire attention, l'armée rouge, l'armée rouge n'a pas été que sympa. Je voulais juste dire une petite chose. Il y a un type que j'admire qui s'appelle Michnik, qui est un Polonais, qui est un journaliste polonais. Et il a défendu Vajda à l'époque en expliquant très gentiment aux Français, c'est un francophone, très gentiment aux Français, vous savez, nous n'avons pas la même histoire que vous avec l'armée rouge. Et je pense que dans la partie occidentale de l'Europe, on a beaucoup de mal avec ça, particulièrement en France.
Oui, Rimsky-Korsakov et les cœurs de l'armée rouge, et voilà.
Et j'adore les cœurs de l'armée rouge.
Et le cuirassé Potemkin.
J'adore les cœurs de l'armée rouge, mais ça m'empêche pas de regarder ce qu'ils ont fait.
Brume noire sur l'Occident, murmure de rêves confus. Barbare ivre de sang, vampire au cœur fondu. Qui marche lentement au bord des avenues. Des mondes agonisants, des déserts corrompus. Ça sent la chair fétide, le rabais cérébré. Le module androïde, le paradoxe usé. Le spectre de mutants au cerveau trafiqué. Qui marche en militant sur nos crânes irradiés. C'est l'histoire assassine qui rougit sous nos pas. C'est la voix de Staline, c'est le rire de Beria. C'est la vie miraculeuse d'Aragon et d'Elsa. C'est le cri des enfants morts à Karaganda.
C'était Signe du Temps, une émission de Marc Wetzmann, assistée de Céline Leclerc, avec à la technique Ludovic Auger et à la réalisation Véronique Villa. Dans un instant, une histoire particulière.
Des visages incolores, des voyageurs abstraits. Des passagers perdus, des émigrants inquiets, qui marchent lentement à travers nos regrets.
voitures enchaînées, nos rêves insatisfaits. Peuple gore et peineux, aux pensées anomiques. Nation morne et fangeuse, esclave anachronique.